des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Théodore Monod. Son nom vous dit certainement quelque chose. Il aura fallu pourtant beaucoup de temps avant qu'il ne devienne célèbre à la fin des années 80, suite à un documentaire. Il avait alors 86 ans. L'image la plus répandue que l'on conserve de lui aujourd'hui, c'est celui de l'amoureux du désert, qu'il parcourra de part en part, marchant jusqu'à 900 km à pied sans point d'eau. « Ma devise, écrit-il, c'est un continent par existence. » Il a passé en effet sa vie en Afrique, au départ le long des côtes, avant de fouler les dunes, et à la fois zoologiste, botaniste, géologue, ethnologue, archéologue. Ce sont ces multiples vies de Théodore Monod que nous vous proposons de retracer dans cette émission Parcours, en compagnie de Roger Kans, journaliste et écrivain. Roger Kans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain, auteur, vous me disiez en préparant cette émission, journaliste au Monde pendant de nombreuses années, aujourd'hui journaliste indépendant et notamment rédacteur en chef d'Eau Libre, qui est un trimestriel de l'Office National de l'Eau.
Oui, enfin ça c'est récent, mais c'est pas mon occupation principale. J'écris des livres justement, notamment des biographies, j'en avais fait une de Cousteau, une de Taziev, et alors c'est des biographies qui se recoupent puisque Cousteau et Théodore Monod ont plongé ensemble au large de Dakar, et Taziev l'a rencontré au désert aussi, enfin c'est des savants explorateurs, les saventuriers comme on les appelle, qui représentent une génération là, des années 30, 40... À une époque où la Terre n'était pas encore complètement finie, comme aujourd'hui avec l'avion qui maintenant abolit les distances.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler, de cette rencontre avec Jacques-Yves Cousteau. Votre biographie, donc, Théodore Monod, savant tout terrain, est une biographie publiée au Sang de la Terre en 2002. C'est ce livre sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette émission. Un livre, bien sûr, passionnant, à l'image de la vie de Théodore Monod. Et vous commencez votre livre en expliquant que vous-même, le premier, ne connaissiez pas finalement que très peu Théodore Monod, et pareil, c'est sur la fin de sa vie que vous faites réellement sa connaissance, que vous le rencontrez d'ailleurs.
Oui, parce que moi je n'étais pas journaliste scientifique, je m'occupais de l'environnement, c'est-à-dire quand je m'occupais un peu de tout, y compris parfois de choses à connotation scientifique, mais disons que, est-ce qualité, je n'avais jamais rencontré Monod, sinon je l'avais vu dans des manifestations pour la protection des animaux ou pour la paix, des choses comme ça, mais parmi d'autres. Mais je ne lui avais jamais parlé et je connaissais la famille Monod parce que moi-même étant protestant et ayant des parents qui ont été mariés par son père, donc Monod, je connaissais aussi Jérôme Monod, le patron de la Lyonnaise des Eaux jusqu'à récemment, qui était tout récemment conseiller à l'Élysée. Enfin bon, c'est une famille que je connaissais, mais Théodore en particulier, je ne l'ai rencontré qu'en 87, donc il avait déjà 85 ans. Non, c'était avant. Le documentaire a été fait en 88. Non, là c'était parce qu'il parlait du désert, il allait faire une conférence en Belgique pour inaugurer une chaire d'érémologie, c'est-à-dire de sciences du désert. Et je l'ai accompagné en voiture parce que je m'occupais d'eau, notamment j'ai écrit des livres sur la bataille de l'eau, la ruée vers l'eau, etc. Donc l'eau et le désert, c'est très important. Et alors, voilà, j'avais été contacté, j'avais dit oui, mais à l'époque, c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas fait parler de lui du tout, parce que j'avais absolument pas l'intention de faire une biographie ou de quoi que ce soit. J'avais l'intention de faire un papier sur sa chaire d'érémologie et on n'a parlé que du désert. Mais longuement, parce que bon, on était en voiture, ça a pris 2 heures aller, 2 heures retour. Mais c'était ma première rencontre d'un monsieur dont je connaissais la famille. Et les Monod, vous savez, dans le monde protestant, c'est, je ne sais pas, c'est dans le monde catholique, il n'y a pas l'équivalent parce que c'est beaucoup plus répandu en France. Mais si vous voulez, c'est comme, je ne sais pas, pour la minorité juive, il y a des noms comme ça, comme Léon Blum, Mendès France, voilà. Donc, c'est des familles qu'on connaît bien, ou Rothschild, enfin bon. Et si vous voulez, les Rothschild sont pour les juifs ce que les Monod sont pour les protestants français, hein.
Alors, nous aurons l'occasion de parler des 98 années hein, de Théodore Monod, puisqu'il naît en 1902, décédera en 2000. Précisons quand même qu'il était membre de l'Académie des sciences en 1963, et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs de parler de son parcours dans cette émission. Mais tout d'abord, bien sûr, on va pas pouvoir parler de tout, puisque
entre 98 ans, c'est long. Hein.
Voilà, entre ses débuts à l'école alsacienne et jusqu'à ses 98 années, il s'en passe des choses dans ce livre hein, que vous avez publié. Mais peut-être pour situer un peu, donner le décor, le ton, l'ambiance familiale. Vous parliez de sa famille protestante.
L'ambiance familiale, alors ça, c'est pasteur à tous les étages, puisque il disait lui-même qu'il était en ligne directe descendant de 5 générations de pasteurs. Son père était pasteur, son grand-père était pasteur. Et en même temps, les Monod, ils s'étaient épousés entre cousins. Donc, il y avait une espèce d'endogamie de la famille Monod qui avait cette tradition du livre, de l'écrit. Donc, tous les Monod ont des professions intellectuelles, si vous voulez. C'est un peu le peuple du livre au sein des protestants. Alors, ils sont tous ou scientifiques, médecin ou journaliste ou artiste et beaucoup pasteur, prédicateur, théologien. Et donc c'est vraiment une tribu. Alors il disait que c'était une tribu maraboutique pour dire que c'était une tribu intellectuelle religieuse, donc très attachée à la tradition protestante puisque l'ancêtre venait de Genève hein, donc c'est vraiment le calvinisme pur et dur
et très strict
et en même temps assez libéral sur le plan il y avait un côté missionnaire, il voulait faire de l'action sociale. Wilfred Monod, son père, considérait qu'il n'était pas seulement pasteur pour ses ouailles, pour les protestants de sa paroisse, mais il faisait de l'action missionnaire, notamment contre l'alcoolisme. Donc, quand il était nommé à Condé-sur-Noireau en Normandie ou à Rouen, il considérait que un pasteur n'était pas seulement un théologien ou un prédicateur, mais aussi devait avoir une action sociale et essayer d'apporter leur dignité, un peu comme l'abbé Pierre, si vous voulez, rendre leur dignité à des gens qui ont sombré dans l'alcoolisme ou la misère.
La famille a ceci de particulier qu'elle écrit des carnets tous les jours, hein, elle note ce qui se passe dans la famille. Et c'est comme ça qu'on a les premières informations concernant Théodore Monod, donc le garçon, hein, le petit, et qui, très vite, on voit qu'il est surdoué, il s'intéresse à la lecture, il commande. Alors, quand il a 10 ans, il fait une commande au BHV, où il demande à ce qu'on lui adresse le catalogue à Monsieur Théodore Monod, il n'a que 10 ans.
Tout ça, c'est un surdoué, et vous savez que les surdoués sont exaspérants pour les enseignants. Donc, il a été mis à la porte de l'école primaire où il était, qui était pourtant dirigée par une tante, Constance Monod, mais elle le supportait pas parce qu'il était tout le temps à la ramener à reprendre l'institutrice. Et puis, il a fait même la classe de 10e, on lui en a fait faire 2 parce qu'il était tellement en avance qu'il fallait le retarder. Alors, il a fait une année de 10e le matin, une année de 10e l'après-midi. Il a fait du mi-temps pendant 2 ans. Mais c'était vraiment un surdoué au départ et qui est resté surdoué jusqu'au bout d'ailleurs.
Alors, dans votre livre, on l'imagine assez seul quand même. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis ou au contraire, c'est ce qui transparaît dans votre livre, qui vivait la tête dans ses bouquins?
Ah ben, de toute façon, vu sa morale personnelle ascétique, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de tabac, la viande, c'était pas encore son combat, mais ça viendra après.
Mais enfin, disons, vraiment,
la pureté absolue, etc. Il pouvait pas être dans une bande d'amis. Il l'a été très peu à un moment, quand il s'est inscrit à la section de la 3e internationale, là, comme étudiant révolutionnaire. Alors, il y avait les étudiants de la rue d'Ulm et tout ça. Mais il a très vite décroché parce que leurs réunions, c'était des réunions en fumée où on buvait, etc. Et lui, du coup, il s'est retrouvé, effectivement, seul. Quand on est à 7, à point à cet âge-là, quand on a 20 ans et qu'on est à 7, on est forcément tout seul.
Il y a un petit épisode, parce que bien sûr, dans une biographie, il faut aussi un peu d'amour, de tendresse. Il y a un petit épisode qui fait sourire lorsqu'il y a une première histoire d'amour très platonique d'une jeune fille qu'il n'osera jamais approcher. Il dîne, je crois, au sein de la famille. Il trouve le père pas vraiment à son goût, mais il l'aime secrètement et finalement, on n'ira jamais la voir.
Eh oui, c'est un premier amour qui restera effectivement platonique, puisque cette fille épousera quelqu'un d'autre plus tard. Il a beau être ascète et complètement branché sur ses crustacés et ses poissons, et ses cornues et ses microscopes, mais de temps en temps quand même,
Mais comment vous aviez eu cette information? puisque ah bah ce ça, n'était pas... il en parlait librement.
Il en parle, oui. Simplement, il ne donne jamais le nom. Il donne J.
J.
Bon, alors, on peut tout imaginer. Non, il est très pudique sur ce plan. Bah, effectivement, il était tout à fait maladroit dans ses rapports. Pas seulement avec les femmes, avec les hommes aussi. Il était socialement très maladroit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a renoncé au pastorat. Il était quand même lucide sur ses défauts. Il savait très bien qu'il n'était pas du tout meneur d'hommes, qu'il ne pouvait pas vraiment entraîner les gens avec lui, et que donc, il valait mieux qu'il soit scientifique, chercheur, plutôt que pasteur.
Alors justement, vous parlez le fait d'être pasteur. C'est vrai que pendant longtemps, il s'est posé la question de savoir quelle carrière il allait embrasser. Est-ce que c'était celle de pasteur, celle de scientifique? Est-ce que l'un pouvait être compatible avec l'autre?
Ah mais pour lui, il n'y avait pas de doute. Il était fils de pasteur, petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de pasteur. Il serait pasteur. Ça jusque vers 16-17 ans. Et puis, il s'est tellement pris de passion pour les sciences. Alors, il s'est dit, bon, bah, je ferai ma théologie quand j'aurai ma licence de sciences. Parce que comme ça, j'en...
Il repousse à chaque
et
fois.
Et puis, il repousse. Et non, mais je pense qu'il a suivi quand même son goût, qui était la science, qui était tout ce qui constitue la nature, que ce soit les minéraux, les plantes, les animaux, tout ça, ça le passionnait. La théologie l'intéressait beaucoup, il lisait énormément, il était aussi passionné, mais il savait bien quel était le métier de pasteur, son père l'était. Donc il a vu qu'il pourrait pas faire le métier de son père, qu'il serait meilleur comme scientifique. Et puis les gens de la Sorbonne lui ont dit, vous savez, la science c'est aussi un sacerdoce. Alors il a dit, bon, banco.
À 21 ans, il termine ses études, mais alors à un niveau très élevé. Donc 21 ans, toujours parce que
Très précoce. Très tôt, il a tous ses examens tout de suite avec des mentions très bien, etc. Et en plus, il se fait des cheveux. Il a l'impression toujours qu'il va rater. Enfin bon, c'est un...
Alors qu'il est toujours reçu avec mention,
oui,
félicitations du jury.
Il n'a aucun problème sur le plan scientifique. Et alors, on lui propose tout de suite de faire une mission sur un bateau, puisque sa spécialité, c'est crustacés.
Avant d'être le spécialiste du désert, effectivement.
Ah oui, non, il n'était pas du tout spécialiste du désert. Il se trouve que sa première mission a été en Mauritanie, mais c'était pas pour le désert, c'était pour les eaux poissonneuses de Mauritanie. Qu'on découvrait à ce moment-là, parce que la Mauritanie était colonie française de fraîche date, et le Maroc aussi, et donc toutes ces eaux poissonneuses froides étaient très riches. Et c'était pas du tout pour le désert qu'on l'envoyait. Et en plus, il s'occupait des pêches jusqu'aux Canaries. Enfin, c'était vraiment la mer qui était son travail. Et alors, le paradoxe, c'est qu'il était sur des bateaux militaires quand il faisait ses campagnes océanographiques, puisque il y avait que la marine qui avait des navires océanographiques.
Alors lui
qui était anti-militariste et anti-pacifiste, toute sa vie, il a été avec des militaires, puisque d'abord sur les navires océanographiques, ensuite dans le désert, parce qu'il fallait toujours une escorte. Hein, le désert, dans les années 30, c'était Razia et compagnie. Et donc, il avait toujours avec lui un chaouche, un tirailleur sénégalais, enfin des gens en uniforme qui gardaient l'expédition.
Il en garde un très bon souvenir, du très bon souvenir en tout cas de l'équipe avec qui il a travaillé.
Bien, il a travaillé avec des équipes tout à fait différentes chaque fois, mais il leur en faisait voir de toutes les couleurs parce qu'il était totalement inaccessible à leur desiderata ou à leur... Il ne s'occupait absolument pas de ce que les autres ressentaient. Il disait on va là et on part ce matin et on y va et puis on mangera ça, on boira ça. Et enfin vraiment, il était assez dictatorial dans ses expéditions parce qu'il y avait très peu de monde. Les gens qui étaient avec lui étaient en admiration devant sa science et devant cette espèce de bulldozer là qui fonçait, qui décidait et donc il suivait, mais il n'était pas aimé, il était admiré mais pas aimé.
Alors, il revient de cette première expédition, il reste pendant très longtemps dans son laboratoire à détailler toutes ses découvertes, hein, toute cette pêche hein, qu'il a récoltée.
Ah oui, il ramène des échantillons. Et alors, comme il est au muséum, le muséum est multidisciplinaire, non seulement il ramène des échantillons de poissons, de crustacés, etc., des dessins de bateaux de pêche, de voiles, etc., parce que c'était poissons et pêche. Hein, et il s'occupait aussi des moyens de capturer le poisson. En fait, le muséum l'envoyait pour une mission économique, pour savoir quels étaient les poissons et comment on les pêchait. Et il a ramené des échantillons de tout, des minéraux, des plantes, et pour les donner à ses collègues du muséum. Il récoltait toujours, il était très ramasseur, et il envoyait ses échantillons à ses collègues spécialistes.
Finalement, à quel moment on parle vraiment de Théodore Monod, l'amoureux du désert? Quelle est la première véritable, on va dire, épopée
Sa première épopée remonte à 1934, lorsqu'il a décidé de traverser le désert du Tanezrouft. Donc, il a débarqué à Alger, mais il a annoncé qu'il allait faire cette traversée. Et donc, c'est les premiers articles qui étaient écrits dans la presse d'Alger, avant son départ et à son retour. Et donc, il a eu ses premiers articles de presse quand il avait 32 ans. Et alors, il a décidé de faire cette traversée, parce qu'il avait, entre la Mauritanie, sa première mission, il en avait fait d'autres. Et là, il décide de la faire vraiment à dos de chameau, lui tout seul, avec deux ou trois chameaux avec lui, et vraiment une escorte minimale, mais traverser 600 km de désert sans point d'eau, sans fourrage pour les chameaux, enfin une folie. Mais c'était là, les années 30, vraiment c'était les casse-cou qui se lançaient, puisque en 1934, Paul-Émile Victor, lui de son côté, partait traverser le désert glacé du Groenland avec des traîneaux à chiens, donc c'était exactement l'équivalent. Les traîneaux à chiens ou les chameaux dans le désert de glace ou désert de sable. Et on sent très bien que cette époque était vraiment favorable aux derniers explorateurs, un peu à la fois très savants, mais ayant le goût de l'aventure et voulant que ça se sache quand même.
Et avec des conditions physiques, enfin en tout cas, il fallait quand même avoir un entraînement particulier parce que ce n'est pas donné à tout le monde de parcourir 600 km dans le désert tout en récupérant à chaque fois des minéraux.
Ah oui, non mais ça, il était extraordinaire parce que c'est un marcheur invétéré. Il faisait de temps en temps du dos de chameau, mais la plupart du temps, il marchait à côté des chameaux puisque les chameaux transportent les choses, mais on marche à côté et puis c'est quand on marche qu'on peut ramasser parce que sur le chameau, c'était uniquement pour les transports ou de nuit ou vraiment à des moments où on est sûr de ne rien ramasser, mais la plupart du temps il marchait et il avait des sandales, il était très résistant parce que il n'avait pas une carcasse particulière, hein. Il mesurait 1m73, c'était une taille moyenne, petit, maigre, enfin, pas du tout taillé pour, mais les petits maigres, ça marche mieux dans le désert parce que justement, on transpire pas, on n'a pas de graisse à perdre et donc, on est taillé pour la route, quoi, et il a très bien résisté. Et puis alors, il y avait ce feu intérieur qui le brûlait. Il avait à la fois la foi religieuse et l'amour de la science, ce qui faisait que et l'ignorance des hommes qui l'entouraient, parce que s'il avait été soucieux de ces hommes, si j'en avais un qui se casse la jambe ou qui il aurait dit ah bon alors il s'occupait absolument de rien, on fait son truc et du coup il a réussi sa traversée du Tanezrouft qui était une grande première que personne, même les Touaregs, ne le faisaient pas.
Hein. Et c'est ce qui faisait qu'il avait un article aussi.
Alors au retour, à l'aller, il l'avait appelé CH Mono parce qu'il savait pas, ils avaient dû voir TH puis il avait mal transcrit parce qu'il était totalement inconnu hein, à 30 ans. Bon. Et au retour, là, il était interviewé, il l'appelait Théodore Monod, mais ceci dit, c'était en 1934, il n'y a qu'à Alger que les gens ont appris l'existence de Théodore Monod. En France, personne n'en a rien su.
Bon, je vous propose de marquer une première pause en compagnie d'Alain Souchon, qui a écrit très récemment, en 2005, La vie Théodore. Et on se retrouve après pour parler plus en détail des paroles d'Alain Souchon.
Je pars avec Théodore dehors, 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 dehors. Marcher dans le désert, marcher dans les pierres, marcher des journées entières, marcher dans le désert, dormir dehors. Couché sur le sable d'or, les satellites et les météores, dormir dehors. Il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium.
Suite suite de notre émission sur Théodore Monod, parcours sur la vie de Théodore Monod en compagnie de Roger Kanz. Nous étions tout de suite avec Alain Souchon qui nous chantait la vie de Théodore. Roger Kanz, pour vous faire réagir sur les paroles d'Alain Souchon, Alain Souchon chante et écrit « Marcher dans le désert, marcher dans les pierres, marcher des journées entières, marcher dans le désert, dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les satellites et les météores, dormir dehors. » Les satellites et les météores, est-ce qu'il fait référence, vous pensez, à la fameuse météorite que Théodore Monod cherchera toute sa vie?
Bien sûr, parce que il y a eu sur la fin de sa vie une obsession de retrouver cette météorite qui avait été signalée par un officier français en 1917, qui avait fait après les manchettes des journaux américains en disant bon. Et sur la fin, il s'est mis en tête de retrouver cette météorite qu'il croyait avoir aperçue une fois. Et alors du coup...
il avait récupéré un morceau.
On lui avait transmis un morceau qu'il avait envoyé au muséum. Et c'est devenu un... Parce qu'il aimait beaucoup les énigmes. Il adorait les jeux de mots, les choses un peu énigmatiques. Et la météorite était une énigme à résoudre. Il aimait même une énigme géologique. Pourquoi tel affleurement rocheux à cet endroit alors que normalement il ne devrait pas être là? Et c'est ça le chercheur, le scientifique, se poser des questions et essayer de résoudre des questions dont on n'avait pas trouvé la solution jusque-là. Alors il aimait découvrir une nouvelle plante, un nouvel animal, découvrir un nouveau phénomène. Et pour ça, il fallait marcher, parce que il avait fait quelques expéditions en voiture ou partiellement mécanisées, mais là on ne peut rien faire parce que en voiture on ne voit rien, on est dans la poussière, alors que quand on marche dans le désert, et on est dans les pierres, mais les pierres c'est intéressant, chaque pierre a une histoire, et donc et surtout s'il y a des silex taillés, des choses qui ont une histoire en plus humaine, mais même une crotte de gazelle, tout raconte quelque chose. Et dans le désert c'est plein de plantes, d'animaux qu'il suffit d'ouvrir l'œil pour les trouver ou en trouver des traces.
Alors si on met bout à bout tous les pas qu'il a parcourus, combien de kilomètres on estime que Théodore Monod a parcouru dans le désert?
Alors là, je crois que lui a fait l'inventaire de tous ses parcours. Il numérotait les échantillons, il avait un petit carnet, etc. Mais il n'a pas numéroté ses kilomètres. Mais enfin, bon, il en a fait des milliers et des milliers, parce que en 98 ans, et il a commencé de 1922 à 2000, il a arpenté le désert. Alors bien sûr, les dernières années, c'était souvent mécanisé, puisqu'il emmenait il partait avec des groupes de touristes qui étaient pressés. Donc, mais il a marché des kilomètres et des kilomètres, et même à Paris, il marchait. Il allait toujours de son appartement sur le quai d'Orléans, au muséum, c'est pas très loin, mais enfin, jamais il n'aimait pas le métro, il n'aimait pas les...
Mais vous racontez d'ailleurs une anecdote où il achète une voiture, je crois qu'il a un accident très vite, alors tout de suite il abandonne...
Oui, il avait acheté une 4 chevaux et les 4 chevaux à Dakar, et les 4 chevaux c'est pas très stable, bon, et surtout qu'il y avait la famille nombreuse, et elle s'est retournée, donc il s'est dit mais enfin après il a une traction Citroën, enfin c'était pas du tout quelqu'un qui était fait pour conduire en étant conscient, parce que il était comme quand il marche, il regardait toujours, non pas là où il mettait les pieds, mais à côté pour voir s'il n'y avait pas une bestiole ou quelque chose d'intéressant.
Alain Souchon écrit en début de sa chanson « On s'ennuie tellement, alors la nuit, quand je dors, je pars avec Théodore ». Est-ce que vous pensez, à l'image d'Alain Souchon, que finalement Théodore Monod fait ce que nous aimerions faire, c'est-à-dire tout quitter et se retrouver seul avec soi-même et partir à la découverte du monde?
Oui, mais ça, il le faisait chaque année. Quand il a découvert le désert à 20 ans en Mauritanie, avec cette caravane et ses bivouacs, les bivouacs, c'était pour lui extraordinaire, parce qu'on couche sur la dure et c'est une vie monacale, ascétique, ça lui plaisait, lui qui était protestant, la vie monastique n'est pas tellement dans la culture protestante, mais justement ça lui manquait, et alors il était un peu ce non pas moine soldat mais moine scientifique, Et il avait ce contact avec la terre, il avait besoin, surtout que dans le désert, il fait froid la nuit, chaud le jour, et donc on se sent constamment assailli par la nature qui est dure, qui est rude, mais qui en même temps, dans le désert, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de, c'est la pureté, quoi. Évidemment, c'est assez aride, mais l'aridité pour lui était un moyen aussi de rentrer en soi-même. Et alors, justement, il lisait Shakespeare, il lisait La Princesse de Clèves, et dans le désert, on n'est pas distrait.
Alors, on a avancé dans le temps, on est donc dans les années 34, 35, 36, on a oublié quelqu'un, parce qu'on parle de Théodore Monod, on a oublié sa femme, puisque entre temps il s'est fiancé, il s'est marié en 1930.
Il a fini par se marier, oui, il a épousé une jeune fille qui était au père en vacances
chez son oncle.
Chez son oncle, au bord du lac Léman, et donc c'était une tchèque, de famille juive pratiquante, hein, qui était de Bohême, et la famille Pic, et elle s'appelait Olga, et il a été séduit par cette jeune fille qui était évidemment assez timide, et étant étrangère avec cette famille mono qui était extrêmement encombrante, et alors et en même temps elle était fascinée par Paris et finalement, elle n'a pas fait le bon choix, elle, parce que elle aimait la vie parisienne, le théâtre, le cinéma, ces choses-là, et il lui a infligé le désert, enfin le désert, la vie à Dakar, et la pauvre...
Sans qu'elle ne l'accompagne, seulement vers la fin hein, de ses voyages et de ses conférences,
oui.
Où il l'emmène après en Égypte, en Espagne.
C'est au début qu'il l'a en fait le plus négligé, quand elle avait les enfants en bas âge, parce que lui ne voulait pas s'encombrer. Tandis qu'une fois que les enfants étaient élevés, alors là quand même, il l'emmenait, de toute façon ils étaient invités, donc ils ne pouvaient pas ne pas l'emmener, ils étaient invités tous les deux, en Éthiopie, en Égypte, le roi Farouk, le Négus, il y avait tout un côté cérémoniel, et elle l'accompagnait. Mais enfin, disons, il y en avait que pour lui, quoi. Elle n'existait pas, elle était une ombre pâle, et en plus elle était d'une discrétion de violette, personnellement c'était son tempérament. Et puis alors elle a eu le malheur de perdre toute sa famille pendant la guerre, puisque à part une tante qui s'était réfugiée en Palestine juste à temps, tout le reste de sa famille a été...
Parce qu'elle hésitait à partir, elle ne savait pas encore où partir.
C'est-à-dire qu'elle elle leur a proposé de venir à Paris, parce mm-hmm. qu'ils avaient laissé un appartement, ils habitaient Dakar, et elle a survécu uniquement parce qu'elle était à Dakar.
À Dakar.
Hein. Mais si elle avait été à Paris, elle aurait certainement aussi été raflée, comme le reste de sa famille.
Parce qu'à Dakar, le régime de Vichy n'était pas spécialement...
Dakar, c'est l'Afrique. Alors c'est comme le communisme à Cuba, c'est Cuba. Hein. Alors l'Afrique, bon ben le vichisme en Afrique était un peu mou. C'était l'Afrique, il y avait les braves nègres et on était là, les coloniaux, etc. Donc c'est vrai que les coloniaux n'avaient pas un esprit très révolutionnaire. Donc Vichy, bon, pourquoi pas. Mais enfin c'était un vichisme mou. Et donc, il n'a pas, sa femme n'a pas été inquiétée du tout. Il n'y avait pas d'antisémitisme. Ils étaient anti-anglais, plus, parce que les Anglais avaient des vues sur Dakar. Mais les Juifs, à Dakar, ils ne s'en occupaient pas.
L'histoire nous a rattrapés. Nous sommes à la période de la Seconde Guerre mondiale. Théodore Monod est mobilisé sur le terrain pour aller rejoindre.
Théodore Monod, lui, qui était pacifiste et antimilitariste, curieusement, c'était un homme qui n'était pas révolté ni rebelle. Il a fait son service militaire, déjà, bien avant la guerre. Il a eu la chance de le faire dans les Chameliers, hein, donc il était dans le désert. En fait, il a fait un service militaire sur mesure où il herborisait. Et puis, à la mobilisation en 40, enfin en 39, il est remobilisé, il est mobilisé à nouveau, envoyé dans le Tibesti. Alors c'est formidable, sur le front, soi-disant, de Libye, puisque l'Italie était occupée, la Libye était alliée à l'Axe, à l'Allemagne, donc il était considéré comme envoyé au front, mais c'était un front dormant où il se passait rien. Donc,
il a profité en fait pour récolter,
explorer les montagnes du Tibesti, de la Nette. Il s'est régalé.
Alors, à quel moment on parle de Radio Dakar, où il enregistre des chroniques et où justement, sous des métaphores, il fait comprendre que ses thèses ariennes et ses thèses de race ne sont pas du tout valables.
Lui qui est scientifique, il n'était pas anthropologue ni ethnologue, mais enfin, il savait très bien que les histoires d'ariens ne signifiaient rien, que l'espèce humaine était une. C'était à la fois sa conviction religieuse et sa connaissance scientifique. Et donc, les théories nazies le choquaient en tant que chrétien et en tant que scientifique, puisque c'était complètement aberrant. Et alors, il avait des chroniques à la radio de Dakar, il faisait des causeries hebdomadaires, comme ça, où il balançait quelques petites fables. Alors, c'était scientifico-anecdotique, mais enfin, il était quand même prudent. Il faisait pas de l'antinazisme à la radio de Dakar, ça n'a pas tenu plus d'une fois.
Et il a quand même été forcé d'arrêter au bout d'un an.
Oui, quand même. Et puis, alors, ce qui est curieux, c'est qu'il a été nommé professeur en 1943.
Voilà. Sous le régime de Vichy, il est nommé professeur au Muséum d'Histoire Naturelle.
Son titre, son diplôme, a été signé par le ministre de l'Instruction publique de l'époque, qui était un membre du gouvernement de Vichy. Donc, il n'était pas du tout considéré comme un rebelle ou un type dangereux.
Tout en écrivant au maréchal Pétain qu'il ne prêterait jamais serment.
Oui. Mais enfin, on ne lui demandait pas de militer pour le gouvernement Pétain. Mais le gouvernement de Vichy ne s'est pas du tout méfié de ce monsieur qui, à la libération, en 44, quand De Gaulle a débarqué, a été déclaré compagnon, non pas compagnon de la libération, mais compagnon, parce qu'il était considéré comme celui qui, en AOF, avait mobilisé les rares forces de résistance à l'Allemagne nazie.
Alors, on l'a bien compris, Théodore Monod s'est installé au Sénégal, à Dakar, avec sa famille, puisque la famille s'est agrandie. Il s'est marié avec Olga Pic.
Alors, il se marie en 1930, après il a des enfants.
Cyril, Béatrice.
Béatrice, la première. Cyril, et puis Ambroise. Et alors donc, à ce moment-là, il est parti s'installer à Dakar pour créer, de fait, quelque chose qui n'était que créé sur le papier, l'Institut français d'Afrique noire.
L'IFAN.
L'IFAN, ou l'IFAN, comme on voudra. Et alors, cet IFAN, qui n'avait pas d'existence autre que légale et réglementaire, il va lui donner de la chair, il va le créer, et il va y rester jusqu'en début 65. Donc, de 1938 à 1965, ça fait un bail. Il a vécu l'essentiel de sa carrière à Dakar, donc pas très loin du désert, ce qui lui permettait chaque année de partir au moment de Noël. Il allait visiter son diocèse, comme il disait, de l'Adrar en Mauritanie. Le diocèse de l'Adrar, c'était son lieu favori, quoi, parce qu'il avait commencé là à 20 ans, et du coup, il fallait qu'il y retourne chaque année.
Avec l'IFAN, on parle aussi d'un instituteur malien qui s'était exilé au Burkina, qui s'appelle Amadou Ampateba, qui est connu pour dire que chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Mmh. Comment se fait cette rencontre? Et c'est-à-dire, c'est assez curieux, parce que dans votre livre, vous en parlez pas trop, en fait, d'Amadou Ampateba.
Ah ben non, mais c'était pas un scientifique, c'était un ancien instituteur qui a... Bon, alors, il était plutôt écrivain, poète, griot, il s'intéressait beaucoup aux traditions culturelles de son pays, et donc, comme l'IFAN n'était pas que... L'IFAN était un mélange de muséum d'histoire naturelle et de musée de l'homme, c'est-à-dire qu'on s'intéressait autant aux choses de la nature qu'aux choses de l'homme. Et l'IFAN, en Afrique, s'occupait des traditions culturelles, des traditions culinaires, des griots, de la musique, de la médecine.
Et quelque chose qui était cher à Théodore Monod, il apportait beaucoup d'intérêt à la culture africaine, la
Absolument,
culture
parce
noire.
Que il préférait cette culture à la culture européenne où le temps est de l'argent et tout est conditionné par l'argent et par l'ambition et puis par la brutalité, puisque c'est la guerre. Bon. Alors que là, il se retrouvait dans un milieu pauvre, et pour lui, la pauvreté était déjà quelque chose qui permettait aux gens de mieux vivre que la richesse, puisque la richesse produit des envieux, des haines, des guerres, alors que des gens qui vivent non pas la pauvreté en tant que telle, mais dans la frugalité, disons, puisque c'était surtout ça qu'il aimait, la frugalité. C'était un promoteur de la sobriété et de la frugalité, non pas de la misère et de la pauvreté, parce que ça, c'est le stade qui correspond à la richesse. Donc, quand on arrive aux deux extrêmes, on devient méchant. Mais la frugalité et la sobriété, il la trouvait pas seulement dans le désert des Touaregs, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale en général, qu'il a parcouru beaucoup pour essayer d'implanter des petits centres de recherche annexes où on essayait de recueillir toutes les données, non pas de la littérature, mais des traditions orales, des traditions musicales, culinaires, médicales et autres.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans votre livre, on le voit, vous l'écrivez, il est assez proche au niveau des idées de Léopold Sédar Senghor, qui était à l'Académie française, immortel de l'Académie française, et pour autant, lui, Théodore Monod, ne se sentait pas si proche de lui. Les deux, qui se ressemblaient finalement, n'allaient pas de pair.
Oui, mais c'est souvent comme ça, les gens qui sont trop semblables, c'est comme les deux crocodiles dans le même marigot, du coup ils n'ont pas d'atomes crochus. Et les gens aiment bien les gens très différents d'eux-mêmes pour pouvoir avoir quelque chose à échanger et à partager. Quand on a les mêmes choses, on peut rien partager et on se méfie un petit peu.
Avec l'Ifane, il y a aussi un épisode qui est important de relater, c'est avec Jacques-Yves Cousteau. C'est l'épisode du bâtiscaf des bâtifolages, mais avec une écriture particulière hein, quand on parle de bâtifolage.
Oui, parce que le professeur Picard, qui était le tournesol de Tintin, hein, c'était son modèle, puisque Picard était suisse d'origine, mais il travaillait à Bruxelles, et donc c'était un savant un peu savant fou, qui avait été le premier homme dans l'espace, puisqu'il avait été jusqu'à 16 000 mètres d'altitude, donc sorti de l'atmosphère. Et il voulait faire la même chose sous l'eau. Parce que c'était un physicien, il voulait observer les phénomènes lorsqu'on était à très haute altitude ou à très grande profondeur. Et là, il se trouve que Dakar a une espèce de fosse, hein, la mer est très profonde à cet endroit-là, et Dakar est équipé, c'est un port, et alors donc le CNRS belge, là, le FNRS, Centre de Recherche Scientifique belge, avait décidé de monter une opération de plongée, avec une soucoupe plongeante, donc de l'invention de ce Picard, qui était vraiment un professeur tournesol. Et cette soucoupe plongeante, bon, ils ont essayé de plonger en 1948 à Dakar. Et alors c'est le commandant Cousteau qui était chargé de conduire le navire en surface. Enfin, la soucoupe était transportée à bord d'un navire qui était commandé par Cousteau et Taillé, son compagnon de plongée des débuts de la plongée. Taillé avait initié Cousteau à la plongée. Et alors là, ils devaient pas plonger eux-mêmes, et eux, ils étaient sur le bateau de surface, mais ils ont cherché, devaient plonger Picard
et quelqu'un
d'autre. Et finalement, il y avait un ingénieur belge, là, Max Cossins, qui voulait absolument plonger. Puis finalement, c'est lui qui a été plus ou moins désigné, peut-être même par tirage au sort. Enfin, toujours est-il que, comme il était en plus spécialiste des poissons, ça l'intéressait d'aller à grande profondeur, puisqu'il aurait peut-être vu des poissons. Malheureusement, la première plongée s'est arrêtée à 25 mètres, parce que tous les flotteurs se sont mis en rideau. Enfin, Picard était très bon physicien, mais il n'était pas ingénieur de marine, et donc ça n'a pas marché la première fois, mais il y aura une deuxième plongée avec toujours Mono, et là ils vont descendre vraiment
3000 mètres, c'est ça?
Ils vont descendre, je sais exactement quelle profondeur, mais enfin c'était impressionnant, je crois que c'était plutôt 1600 mètres, parce que le 3000 mètres c'est la soucoupe vide. En tout cas, voilà, c'était un homme intrépide, parce que c'était pas son métier de plonger. Mais voilà, il a...
Et retrouver ses premières amours, qui étaient l'océanographie.
Oui. Il a observé par le hublot. Il a peut-être pas dû voir grand-chose, mais en tout cas, ça lui a permis d'écrire son premier livre un petit peu humoristique, qu'il a appelé Bâtifolage, THY. Voilà.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Roger Kans, et on se retrouve après pour la fin de notre émission. À tout de suite.
Chercheur de trésors, de brindilles et de phosphore, d'amour humain et d'effort. Chercheur de trésors, il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium.
suite de notre émission en compagnie de Roger Kans, avec qui nous retraçons le parcours. Alors malheureusement, bien sûr, nous passons trop peu de temps sur le parcours de Théodore Monod. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Dans cette troisième partie, nous allons peut-être pouvoir parler des rapports qu'il entretenait avec son épouse, Olga Monod, tout au long de ses traversées du désert, où il part pendant quand même de longues périodes, hein, parfois 11 mois. Il envoie des lettres et notamment des dessins où il s'assimile à un hérisson et elle à un petit écureuil. C'est très typique de Théodore Monod, Roger Kans, de faire des petits dessins.
Il aimait beaucoup les blagues, les anagrammes, tout ce qui était astuces. Et en plus, il dessinait très bien. Il avait tous les dons. Hein. Il savait écrire, lire, compter. On pouvait le coincer nulle part. Il savait tout sur tout. Et donc, il savait dessiner. Et alors, il faisait des petits dessins humoristiques. Lui, il n'avait pas beaucoup d'humour dans la vie courante. Mais dans ses dessins, oui, il arrivait à se moquer de lui-même. Donc, hérisson, il sentait bien qu'il était quand même pas d'un contact tellement facile et que bon,
est-ce qu'il s'y frotte,
s'y pique. Et puis, elle, c'était son petit écureuil parce que c'est un petit animal charmant. Mais ça remontait au moment où il était début. Jeune marié au tout début, fiancé même, il lui écrivait, etc. Quand il était au désert, il pouvait pas lui écrire parce que il n'y avait pas de poste dans le désert. Et donc, elle était sans nouvelles de lui. Il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas le téléphone, il n'emportait pas de radio. Et donc, elle était sans nouvelles, aucune. Non, il pouvait très bien trépasser et elle l'aurait su que 15 jours ou 3 semaines après. Et non, le courrier, c'est quand il était envoyé en mission dans une ville. Alors là, il essayait d'illustrer ses courriers.
Et plus tard, il envoie des lettres à sa nièce. Pareil, avec des petits dessins, il reprend
Il aimait bien, il était resté très enfantin sur certains plans. Hein, il avait été boy scout et il était resté un peu ce scout qui est sur une piste. Il y a un jeu de piste. Et lui, pour lui, la science, c'était un jeu. Il s'amusait en recherchant. Il était vraiment, il s'amusait dans le désert. Il ne souffrait pas du tout. Il était pas du tout adepte de la souffrance pour s'élever ou quoi que ce soit. Non, il avait plaisir à marcher. Il avait plaisir à dormir sur le sable. Il avait plaisir à lire. Il lisait le désert. Le désert était un lieu de lecture fantastique pour lui. Il écrivait, donc il prenait ses notes, il notait ses échantillons. Et puis quand il était envoyé dans une ville quelconque et qu'il écrivait, il aimait bien faire des petits dessins, faire des petites énigmes, des anagrammes, des blagues, quelquefois d'ailleurs potaches, hein, c'était pas forcément de très haut niveau. Mais voilà, il avait un petit côté enfantin comme ça.
Alors, avant d'en venir à ses enfants, hein, Béatrice, Cyril et Ambroise, sa femme tout d'abord. Ce qui est très particulier, c'est que elle reste silencieuse, elle a très peu de nouvelles. Quand lui, il revient, il s'installe plus à Dakar parce qu'il y a l'IFAN, même si ça l'empêche pas de partir faire des conférences à droite à gauche. Elle est sa petite main, puisqu'il n'y a pas de secrétaire à l'IFAN, hein, c'est elle qui fait tout. Et même quand ils sont à Paris, je crois que quand elle est au muséum, il lui demande de retranscrire toutes les notes qu'il a
rédigées. Oui, jamais il ne l'emmène au théâtre quand ils sont à Paris, jamais il ne le... Il a horreur de la vie mondaine.
Elle doit être très éprise quand même.
Eh ben, elle est surtout très soumise parce que même elle qui était de religion juive pratiquante, elle abdique totalement, elle devient protestante de fait, elle se convertit pas, il lui demande pas de se convertir, mais disons qu'il lui impose tout, les horaires, les menus, le mode de vie, l'éducation des enfants. Alors là, l'éducation des enfants, lui, il ne s'en occupe pas, mais il lui impose de s'en occuper justement. Et il a un mode de fonctionnement qui était, bon, il n'était pas du tout père de famille digne. Il était un père indigne, absent, quoi. Mais c'était une époque, hein. C'était quand même une époque où le père de famille avait encore autorité sur sa famille, donc sur sa femme, etc. Aujourd'hui, ça paraît complètement périmé, parce que là, la pauvre Olga, surtout qu'elle n'avait plus de famille, plus rien. Alors, bien sûr, elle pouvait se raccrocher à lui, mais enfin, s'il avait eu un tout petit peu de délicatesse à l'égard de sa femme, qui était quand même celle qui est la mère de ses enfants et celle qu'il avait choisie, épousée, il aurait quand même pu de temps en temps le... Alors, sur la fin, il l'a emmené un peu dans les voyages, il l'a emmené en Grèce, à Rome, en Égypte, en Éthiopie, enfin, dans certains... Bon. Et elle a pu avoir quelques mondanités sur la fin, parce que lui-même était un invité au titre de vieux savant. On lui remettait des décorations, des prix. Il était médaillé à chaque fois.
Il recevait les honneurs.
Docteur honoris causa de ci et de ça. Et alors du coup, bon ben là, à ce moment-là, elle a un peu revécu une vie plus humaine à sa mesure, parce que vraiment, quand cette fille venant de Bohême rêvait de Paris et de littérature, de théâtre, de spectacles, de robes, etc. Elle a eu tout le contraire.
Et vous qui avez travaillé sur ce livre, sur cette biographie que vous avez écrit en 2002, vous êtes appuyé sur les propos des enfants de Théodore Monod.
Oui, quand on veut connaître quelqu'un, on a trois enfants qui sont...
Vous aviez trois images bien différentes, trois versions bien différentes du père, Théodore Monod.
Oui, parce que l'aînée Béatrice, c'est la fille aînée, donc quand sa mère n'était pas là, c'était elle la mère de famille, donc elle était la sage, la femme, celle qui ne se rebelle pas. Alors que les deux fils, eux, étaient plutôt du genre rebelle à l'égard de leur père, en ce sens que leur père n'a pas réussi à leur inculquer sa sobriété et sa frugalité. Le fils Cyril, qui a travaillé dans les pétroles, etc., il était dans le business, il n'était pas du tout ni pasteur, ni missionnaire, ni médecin.
Ils se croisaient même parfois, je crois,
Oui, ils se sont croisés une fois dans le désert. Quand il était... Oui, Cyril était avec son chauffeur, et puis il croise un autobus, un petit quart de brousse, là, comme bourré de monde, et puis en sort un couple de blancs, et Cyril reconnaît ses parents. Il dit à son chauffeur, voilà mes parents. Son chauffeur n'a pas voulu le croire, évidemment, parce que pour lui, un blanc, il est là, il le conduit, le blanc est un demi-dieu, un casque colonial et tout ça. Et il voit un couple sortant d'un quart de brousse. Il pouvait pas imaginer que c'était les parents de son patron.
Et Ambroise, alors, qui départ...
Alors Ambroise, lui, il a vécu toute sa jeunesse en Afrique. Il était envoyé en pension en France, au Chambon-sur-Lignon. Il n'a pas bien connu son père, évidemment, puisque son père était toujours absent, ou c'était lui qui n'était pas en Afrique pour ses études après. Mais en revanche, il était destiné au pastorat. Donc, son père était très soucieux de le voir devenir pasteur, parce qu'au moins un des trois...
Le dernier, parce que c'était le dernier.
C'était le petit dernier. Et effectivement, il a fait sa théologie, il a été objecteur de conscience, il n'a pas fait son service militaire. Enfin, c'était vraiment le fils qui était dans la lignée intellectuelle de la culture mono. Et puis voilà, son fils l'a déçu parce que après il a abandonné le pastorat, il a divorcé, etc. Mais vraiment, ça a été une déception pour son père. Et ils se sont réconciliés que beaucoup plus tard, quand même, quand il est devenu vieux, sa nouvelle bru l'a un peu secoué et finalement il a
secoué dans le bon sens.
Il fallait un peu le brutaliser. Vous savez, quand on vieillit comme ça, quelquefois on lui dit non, tu vas faire ça. Et puis, quand on commence à prendre de l'âge, on n'a plus la force de se rebeller. Et puis finalement, il s'est attaché à elle d'une certaine façon. Quand il était vieux et veuf, évidemment, il s'est plus retourné vers ses enfants ou ses gendres.
Alors, Théodore Monod, le grand public fait sa connaissance réellement avec
Ça vient d'un seul coup.
En 88 alors.
Oui, parce que il se trouve qu'un des rassemblements de toute la famille Monod planétaire, un nommé Karel Prokop, qui était tchèque. Alors en plus, il avait des affinités avec la femme de Théodore Monod, qui était tchèque aussi. Et il avait une autre qualité, c'est qu'il avait épousé une Constance Monod, et donc ils étaient parents. Et alors, il lui a proposé, comme il était réalisateur de télévision, qu'il est toujours, il lui a proposé de savoir s'il voulait le filmer dans une de ses expéditions au désert. Alors Monod a dit « Oui, mais je veux pas d'équipe de tournage, je veux que toi. Le gars, pas d'ingénieur du son, pas de, juste une caméra et toi. » Là, d'accord. Et alors, ils sont partis. Et donc Karel Prokop a filmé, il avait même pris de la pellicule, c'était pas de la vidéo, parce qu'il pensait que avec la vidéo, s'il y avait un grain de sable, tout se bloquait, avec la pellicule, on s'en tire toujours, on a une manivelle. Et donc il a fait un film qu'il a eu du mal à vendre à la télé, parce que Monod, les gens connaissaient pas.
Mais qui est quand même passé sur le service public.
Oui, mais justement, c'est André Boutang qui a accepté parce que c'était un homme cultivé et que bon, mais la une, la deux, tout ça l'ont envoyé promener. Donc c'est la 3, je crois, qui oui, c'est France 3 qui a fini par prendre le documentaire. Et ce documentaire a eu un impact formidable. Tout d'un coup, Théodore Monod est devenu une vedette. Mais du jour au lendemain. Alors, bien sûr, la communauté scientifique le connaissait, tous les militants pacifistes et tout ça, parce que chaque année, il allait faire son pèlerinage à Tavernier.
Oui, on l'était pas assez dit, mais il était quand même assez militant. Hein.
Anti-nucléaire complet. Alors là, pour lui, c'était le retour à la barbarie. Et donc, il était connu comme militant pacifiste. Il avait signé l'appel des 121 pendant la guerre d'Algérie, etc. Mais donc, la fin de sa vie, il était connu non pas comme savant, mais comme militant de différentes causes, contre la corrida, contre la chasse, contre toutes sortes de choses. Bon. Et c'était à ce titre qu'il était connu, mais il en a parlé dans son film, et alors là, il est devenu une vedette d'un seul coup. Et après, on se l'est arraché, et alors il a été refilmé, on a fait des livres.
À 86 ans, il commence à avoir
une notoriété. Oui, il avait 86 ans. Il a eu une toute petite notoriété à 32 ans en Algérie, mais qui était restée, bon, batifolage. Il avait une petite notoriété dans la communauté scientifique, et puis une notoriété dans la communauté alternative, disons. Mais le grand public, c'est à 86 ans qu'il a percé. Et après, tout le monde se l'arrachait. Dans les organisateurs de voyages dans le désert lui proposaient de venir faire des conférences le soir au bivouac. Et il le faisait. Ça lui a permis de découvrir de nouveaux déserts, la Libye, l'Iran. Enfin, il a fait d'autres expéditions. Et il était un puits de science. Et les touristes devenaient intelligents, si vous voulez. Ça apportait quelque chose, parce que les touristes qui marchent, c'est physique, hein, c'est donc une espèce d'ascèse, mais l'intellect ne fonctionne pas, tandis que là, tous les soirs, il faisait la Sorbonne à lui tout seul.
Et c'est la question que je vous posais en préparant cette émission, est-ce que Théodore Monod ne se sentait pas à rabaisser, entre guillemets, à se retrouver, à faire le guide pour touristes dans différents déserts?
Non, lui, pas du tout. De toute façon, c'était quelqu'un qui avait l'humilité, ne le gênait absolument pas. Il n'était pas humble dans son comportement, il était très conscient de sa valeur et très, très conscient, très agréablement surpris lorsqu'il avait des honneurs et tout ça. Non, ça ne gênait pas du tout, parce que les groupes de touristes lui permettaient d'avoir un public qui était très attentif, admiratif. Et quand on est un vieux monsieur et qu'on est à la retraite, qu'on n'a rien d'autre à faire, on vous permet de faire votre voyage dans le désert qui est votre passion. Et en même temps, vous n'avez à vous occuper de rien, puisque là, sa vue baissait beaucoup. Donc, il était devenu, c'était la langue qui était son seul moyen de communication. Et il ne faisait plus il n'herborisait plus. Mais de temps en temps, on lui apportait un caillou, tout ça. Rien qu'au toucher, il disait, ah, ça, c'est ceci. Alors, il avait un cercle d'admirateurs et ça le valorisait. Il se sentait pas du tout rabaissé de faire le guide touristique, parce qu'il a toujours aimé être le guide expliquant les choses. Il était même, quand il était à la maternelle, il expliquait à l'institutrice. Donc, il avait ce côté magistère, le maître partout. Il était le maître savant.
Théodore Monod parcourt le désert jusqu'à 92 ans.
Mais non, mais il avait encore l'intention d'y aller en décembre 2000. Lorsqu'il a eu son attaque, mais il était partant, il partait pour la Mauritanie le lendemain. Alors bien sûr, 98 ans, il n'aurait pas fait des kilomètres, mais il aurait marché. Il marchait petit pas, hein, petit pas de vieux, mais c'était pour lui une hygiène.
Il aurait voulu mourir dans le désert.
Je pense que ça aurait été de toute façon beaucoup mieux qu'il meure dans le désert que de mourir dans une maison de retraite. Parce que la retraite, c'était pas quelque chose qui lui ressemblait. Et ça, la dernière année a été triste. Et donc, c'est vrai qu'il serait mort dans son diocèse de la Drar. Il serait enterré là-bas et ça aurait été pour lui une fin tout à fait symbolique et heureuse.
Pour terminer cette émission, je voulais terminer sur le blason, puisque Théodore Monod s'était créé lui tout seul un blason où il réunissait beaucoup de religions, Puisqu'il était pour l'unité, en fait, hein, dans la diversité.
Il était pour l'unité de toutes les religions. Il était théardien, hein, Théard de Chardin. Il disait que chacun escalade la montagne sur la pente sur laquelle il se trouve, mais que tout le monde se retrouve au point oméga ensemble. Et donc, le musulman, l'hindouiste, le juif, le chrétien, etc., tout le monde est sur sa pente, escalade, et tout le monde se retrouve au final. Et alors, donc, il s'était fait un blason où il y avait la croix chrétienne, où il y avait l'étoile de David, où il y avait la roue indienne, le lotus, enfin, et le yin et yang bouddhique. Et donc, il était citoyen du monde, il s'estimait citoyen de la planète, parce que lui, il savait très bien que la planète était une petite boule, et que c'était notre seule maison, et qu'il fallait en prendre soin.
Précurseur de l'écologie.
Précurseur, oui. Enfin, il a toujours été militant des différentes causes qui sont devenues l'écologie.
Eh bien, merci Roger Kans. Je rappelle le titre de votre biographie, Théodore Monod, savant tout terrain, paru aux éditions Sang de la Terre en 2002, avec une magnifique photo. D'ailleurs, je ne sais pas qui est l'auteur de cette photo.
Je crois que c'est Jean Larivière, qui est un collaborateur maintenant, qui est photographe, est un collaborateur de Nicolas Hulot. Et il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de mal à faire une photo de Théodore Monod souriant, parce que Monod ne souriait jamais.
Eh bien, merci Roger Kans, et puis nous invitons nos auditeurs à écouter une autre émission en votre compagnie sur la petite histoire du mouvement écolo. Merci beaucoup encore une fois et de nous avoir donné toutes ces explications sur Théodore Monod, et puis à très vite. Merci.
Merci beaucoup.